Le bonheur et une vendetta. Deux nouvelles extraites de Contes du jour et de la nuit. Guy de Maupassant. Le bonheur. C'était l'heure du thé, avant l'entrée des lampes. La villa dominait la mer. Le soleil disparu avait laissé le ciel tout rose de son passage, frotté de poudre d'or. Et la Méditerranée, sans une ride, sans un frisson, lisse, luisante encore sous le jour mourant, semblait une plaque de métal poli et démesuré. Au loin, sur la droite, les montagnes dentelées dessinaient leurs profils noirs sur la pourpre pâlie du couchant. On parlait de l'amour, on discutait ce vieux sujet, on redisait des choses qu'on avait dites déjà bien souvent. La mélancolie douce du crépuscule alentissait les paroles, faisait flotter un attendrissement dans les âmes. Et ce mot amour, qui revenait sans cesse, tantôt prononcé par une forte voix d'homme, tantôt dit par une voix de femme au timbre léger, paraissait emplir le petit salon, y voltiger comme un oiseau, y planer comme un esprit. Peut-on aimer plusieurs années de suite ? Oui, prétendaient les uns. Non, affirmaient les autres. On distinguait les cas. On établissait des démarcations, on citait des exemples, et tous, hommes et femmes, pleins de souvenirs surgissants et troublants qu'ils ne pouvaient citer et qui leur montaient aux lèvres, semblaient émus, parlaient de cette chose banale et souterraine, l'accord tendre et mystérieux de deux êtres, avec une émotion profonde et un intérêt ardent. Mais, tout à coup, quelqu'un, ayant les yeux fixés au loin, s'écria:
Oh ! Voyez là-bas ! Qu'est-ce que c'est ?
Sur la mer, au fond de l'horizon, surgissait une masse grise, énorme et confuse. Les femmes s'étaient levées et regardaient sans comprendre cette chose surprenante qu'elles n'avaient jamais vue. Quelqu'un dit :
C'est la Corse ! On l'aperçoit ainsi deux ou trois fois par an dans certaines conditions d'atmosphère exceptionnelles, quand l'air, d'une limpidité parfaite, ne la cache plus par ces brumes de vapeur d'eau qui voilent toujours les lointains.
On distinguait vaguement les crêtes, on crut reconnaître la neige des sommets, et tout le monde restait surpris, troublé, presque effrayé par cette brusque apparition d'un monde, par ce fantôme sorti de la mer. Peut-être eurent-ils de ces visions étranges ceux qui partirent comme colons à travers les océans inexplorés. Alors, un vieux monsieur qui n'avait pas encore parlé prononça :
Tenez, j'ai connu dans cette île qui se dresse devant nous, comme pour répondre elle-même à ce que nous disions et me rappeler un singulier souvenir, j'ai connu un exemple admirable d'un amour constant, d'un amour invraisemblablement heureux. Le voici.
Je fis, voilà 5 ans, un voyage en Corse. Cette île sauvage est plus inconnue et plus loin de nous que l'Amérique, bien qu'on la voie quelquefois des côtes de France, comme aujourd'hui. Figurez-vous un monde encore en chaos, une tempête de montagnes que séparent des ravins étroits où roulent des torrents. Pas une plainte, mais d'immenses vagues de granit et de géantes ondulations de terre, couverte de maquis ou de hautes forêts de châtaigniers et de pins. C'est un sol vierge, inculte, désert, bien que parfois on aperçoive un village, pareil à un tas de rochers au sommet d'un mont. Point de culture, aucune industrie, aucun art. On ne rencontre jamais un morceau de bois travaillé, un bout de pierre sculpté, jamais le souvenir du goût enfantin ou raffiné des ancêtres pour les choses gracieuses et belles.
c'est la même ce qui frappe le plus en ce superbe et dur pays. L'indifférence héréditaire pour cette recherche des formes séduisantes qu'on appelle l'art. L'Italie, où chaque palais plein de chefs-d'œuvre est un chef-d'œuvre lui-même, où le marbre, le bois, le bronze, le fer, les métaux et les pierres attestent le génie de l'homme, où les plus petits objets anciens qui traînent dans les vieilles maisons révèlent ce divin souci de la grâce et, pour nous tous, la patrie sacrée que l'on aime, parce qu'elle nous montre et nous prouve l'effort, la grandeur, la puissance et le triomphe de l'intelligence créatrice. Et, en face d'elle, la Corse sauvage est restée telle qu'en ses premiers jours. L'être y vit dans sa maison grossière, indifférent à tout ce qui ne touche point son existence même ou ses querelles de famille. Et il est resté avec les défauts et les qualités des races incultes, violents, haineux, sanguinaire, avec inconscience, mais aussi hospitalier, généreux, dévoué et naïf, ouvrant sa porte aux passants et donnant son amitié fidèle pour la moindre marque de sympathie. Donc, depuis un mois, j'irai à travers cette île magnifique, avec la sensation que j'étais au bout du monde. Point d'auberge, point de cabaret, point de route. On gagne, par des sentiers à mulets, ces hameaux accrochés au flanc des montagnes qui dominent des abîmes tortueux, d'où l'on entend en montée, le soir, le bruit continu, la voix sourde et profonde du torrent. On frappe aux portes des maisons, on demande un abri pour la nuit et de quoi vivre jusqu'au lendemain. Et on s'assoit à l'humble table, et on dort sous l'humble toit, et on serre au matin, la main tendue de l'hôte qui vous a conduit jusqu'aux limites du village. Or, un soir, après 10 heures de marche, j'atteignis une petite demeure, toute seule, au fond d'un étroit vallon qui allait se jeter à la mer une lieue plus loin. Les deux pentes rapides de la montagne, couvertes de maquis, de rocs éboulés et de grands arbres, enfermaient comme deux sombres murailles ce ravin lamentablement triste. Autour de la chaumière, quelques vignes, un petit jardin et plus loin quelques grands châtaigniers. De quoi vivre enfin, une fortune pour ce pays pauvre. La femme qui me reçut était vieille, sévère et propre, par exception. L'homme, assis sur une chaise de paille, se leva pour me saluer puis se rassit sans dire un mot. Sa compagne me dit « Excusez-le. » Il est sourd maintenant. Il a 82 ans. Elle parlait le français de France. Je fus surpris. Je lui demandai « Vous n'êtes pas corse ?» Elle me répondit « Non, nous sommes des continentaux, mais voilà 50 ans que nous habitons ici. » Une sensation d'angoisse et de peur me saisit à la pensée de ces 50 années écoulées dans ce trou sombre, si loin des villes où vivent les hommes. Un vieux berger rentra, et l'on se mit à manger le seul plat du dîner, une soupe épaisse où avaient cuit ensemble des pommes de terre, du lard et des choux. Lorsque le court repas fut fini, j'allai m'asseoir devant la porte, le cœur serré par la mélancolie du morne paysage, étreint par cette détresse qui prend parfois les voyageurs en certains soirs tristes, en certains lieux désolés. Il semble que tout soit prêt de finir, l'existence et l'univers. On perçoit brusquement l'affreuse misère de la vie, l'isolement de tous, le néant de tout et la noire solitude du cœur qui se berce et se trompe lui-même par des rêves jusqu'à la mort. La vieille femme me rejoignit et, torturée par cette curiosité qui vit toujours au fond des âmes les plus résignées, « Alors, vous venez de France ?» dit-elle. « Oui, je voyage pour mon plaisir. »« Vous êtes de Paris, peut-être ?»« Non, je suis de Nancy. » Il me sembla qu'une émotion extraordinaire l'agitait. Comment ai-je vu ou plutôt senti cela ? Je n'en sais rien. Elle répéta d'une voix lente. « Vous êtes de Nancy ? L'homme parut dans la porte, impassible comme sont les sourds. Elle reprit. Ça ne fait rien, il n'entend pas. Puis, au bout de quelques secondes, alors, vous connaissez du monde à Nancy ?
Mais oui, presque tout le monde.
La famille de Saint-Alaise ?
Oui, très bien, c'était des amis de mon père.
Comment vous appelez-vous ?
Je dis mon nom. Elle me regarda fixement, puis prononça de cette voix basse qu'éveille les souvenirs.
Oui, oui, je me rappelle bien.
Et les Brismar, qu'est-ce qu'ils sont devenus ?
Tous sont morts.
Ah ! Et les Sirmont, vous les connaissiez ?
Oui, le dernier est général.
Alors elle dit, frémissante d'émotion, d'angoisse et de je ne sais quel sentiment confus, puissant et sacré, de je ne sais quel besoin d'avouer, de dire tout, de parler de ces choses qu'elle avait tenues jusque-là enfermées au fond de son cœur et de ces gens dont le nom bouleversait son âme.
Oui, Henri de Sirmont, je le sais bien, c'est mon frère.
Et je levai les yeux vers elle, effarée de surprise. Et, tout d'un coup, le souvenir me revint. Cela avait fait, jadis, un gros scandale dans la noble Lorraine. Une jeune fille, belle et riche, Suzanne de Sirmont, avait été enlevée par un sous-officier de hussards du régiment que commandait son père. C'était un beau garçon, fils de paysan, mais portant bien le dolman bleu, ce soldat qui avait séduit la fille de son colonel. Elle l'avait vu, remarqué, aimé en regardant défiler les escadrons, sans doute. Mais comment lui avait-elle parlé ? Comment avait-il pu se voir, s'entendre ? Comment avait-elle osé lui faire comprendre qu'elle l'aimait ?
Cela,
on ne le sut jamais. On n'avait rien deviné, rien pressenti. Un soir, comme le soldat venait de finir son temps, il disparut avec elle. On les chercha. On ne les retrouva pas. On n'en eut jamais de nouvelles et on la considérait comme morte. Et je la retrouvai ainsi dans ce sinistre vallon. Alors, je repris à mon tour.
Oui, je me rappelle bien.
Vous êtes mademoiselle Suzanne ? Elle fit oui de la tête. Des larmes tombaient de ses yeux. Alors, me montrant d'un regard le vieillard immobile sur le seuil de sa masure, elle me dit :
c'est lui.
Et je compris qu'elle l'aimait toujours, qu'elle le voyait encore avec ses yeux séduits. Je demandai : avez-vous été heureuse au moins ? Elle me répondit avec une voix qui venait du cœur :
oh, oui, très heureuse. Il m'a rendue très heureuse. Je n'ai jamais rien regretté.
Je la contemplais, triste, surpris, émerveillée par la puissance de l'amour. Cette fille riche avait suivi cet homme, ce paysan. Elle était devenue elle-même une paysanne. Elle s'était faite à sa vie sans charme, sans luxe, sans délicatesse d'aucune sorte. Elle s'était pliée à ses habitudes simples et elle l'aimait encore. Elle était devenue une femme de rustre, en bonnet, en jupe de toile. Elle mangeait dans un plat de terre sur une table de bois, assise sur une chaise de paille, une bouillie de choux et de pommes de terre au lard. Elle couchait sur une paillasse à son côté. Elle n'avait jamais pensé à rien qu'à lui. Elle n'avait regretté ni les parures, ni les étoffes, ni les élégances, ni la mollesse des sièges, ni la tiédeur parfumée des chambres enveloppées de tentures, ni la douceur des duvets où plongent les corps pour le repos. Elle n'avait eu jamais besoin que de lui, pourvu qu'il fût là,
elle ne désirait rien. Elle avait abandonné la vie, toute jeune, et le monde, et ceux qui l'avaient élevée, aimée. Elle était venue, seule avec lui, en ce sauvage ravin. Et il avait été tout pour elle. Tout ce qu'on désire, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on attend sans cesse, tout ce qu'on espère sans fin. Il avait empli de bonheur son existence, d'un bout à l'autre. Elle n'aurait pas pu être plus heureuse. Et, toute la nuit, en écoutant le souffle rauque du vieux soldat étendu sur son grabat, à côté de celle qui l'avait suivi si loin, je pensais à cette étrange et simple aventure, à ce bonheur si complet, fait de si peu. Et je partis au soleil levant, après avoir serré la main des deux vieux époux. Le conteur se tut. Une femme dit :
C'est égal, elle avait un idéal trop facile, des besoins trop primitifs et des exigences trop simples.
Ce ne pouvait être qu'une sotte.
Une autre prononça d'une voix lente :
Qu'importe ? Elle fut heureuse.
Et là-bas, au fond de l'horizon, la Corse s'enfonçait dans la nuit, rentrait lentement dans la mer. Effacée, sa grande ombre apparut comme pour raconter, elle-même, l'histoire des deux humbles amants qu'abritait son rivage.
Une vendetta. La veuve de Paolo Saverini habitait seule avec son fils une petite maison pauvre sur les remparts de Bonifacio. La ville, bâtie sur une avancée de la montagne, suspendue même par place au-dessus de la mer, regarde par-dessus le détroit hérissé d'écueils, la côte plus basse de la Sardaigne. À ses pieds, de l'autre côté, la contournant presque entièrement, une coupure de la falaise qui ressemble à un gigantesque corridor lui sert de port, amène jusqu'aux premières maisons, après un long circuit entre deux murailles abruptes, les petits bateaux pêcheurs italiens ou sardes, et, chaque quinzaine, le vieux vapeur poussif qui fait le service d'Ajaccio. Sur la montagne blanche, le tas de maisons pose une tache plus blanche encore. Elles ont l'air de nids d'oiseaux sauvages, accrochés ainsi sur ce roc, dominant ce passage terrible où ne s'aventurent guère les navires. Le vent, sans repos, fatigue la mer, fatigue la côte nue, rongée par lui, à peine vêtue d'herbe. Il s'engouffre dans le détroit, dont il ravage les deux bords. Les traînées d'écume pâle, accrochées aux pointes noires des innombrables rocs, qui percent partout les vagues, ont l'air de lambeaux de toile flottant et palpitant à la surface de l'eau. La maison de la veuve Saverini, soudée au bord même de la falaise, ouvrait ses trois fenêtres sur cet horizon sauvage et désolé. Elle vivait là, seule, avec son fils Antoine et leur chienne, Sémillante. Grande bête maigre, au poil long et rude de la race des gardeurs de troupeaux. Elle servait au jeune homme pour chasser. Un soir, après une dispute, Antoine Saverini fut tué traîtreusement d'un coup de couteau par Nicolas Ravolati, qui, la nuit même, gagna la Sardaigne. Quand la vieille mère reçut le corps de son enfant que des passants lui rapportèrent, elle ne pleura pas, mais elle demeura longtemps immobile à le regarder. Puis, étendant sa main ridée sur le cadavre, elle lui promit la vendetta. Elle ne voulut point qu'on restât avec elle et elle s'enferma auprès du corps avec la chienne qui hurlait. Elle hurlait, cette bête, d'une façon continue, debout, au pied du lit, la tête tendue vers son maître et la queue serrée entre les pattes. Elle ne bougeait pas plus que la mère qui, penchée maintenant sur le corps, l'œil fixe, pleurait de grosses larmes muettes en le contemplant. Le jeune homme, sur le dos, vêtu de sa veste de gros drap, trouée et déchirée à la poitrine, semblait dormir, mais il avait du sang partout. Sur la chemise arrachée pour les premiers soins, sur son gilet, sur sa culotte, sur sa face, sur les mains, des caillots de sang s'étaient figés dans la barbe et dans les cheveux. La vieille mère se mit à lui parler. Au bruit de cette voix, la chienne se tut. « Va, va, tu seras vengé, mon petit, mon garçon, mon pauvre enfant. Dors, dors, tu seras vengé. Entends-tu? C'est la mère qui le promet, et elle tient toujours sa parole, la mère. Tu le sais bien. » Et lentement, elle se pencha vers lui, collant ses lèvres froides sur les lèvres mortes. Alors, Sémillante se remit à gémir. Elle poussait une longue plainte monotone, déchirante, horrible. Elles restèrent là toutes les deux, la femme et la bête, jusqu'au matin. Antoine Saverini fut enterré le lendemain, et bientôt, on ne parla plus de lui dans Bonifacio. Il n'avait laissé ni frère, ni proche cousin. Aucun homme n'était là pour poursuivre la vendetta. Seule la mère y pensait, la vieille. De l'autre côté du détroit, elle voyait du matin au soir un point blanc sur la côte. C'était un petit village sarde, Longo Sardo, où se réfugient les bandits corses, traqués de trop près. Ils peuplent presque seuls ce hameau en face des côtes de leur patrie, et ils attendent là le moment de revenir, de retourner au maquis. C'est dans ce village, elle le savait, que s'était réfugié Nicolas Ravolati. Toute seule, tout le long du jour, assise à sa fenêtre, elle regardait là-bas en songeant à la vengeance. Comment ferait-elle sans personne, infirme, si près de la mort? Mais elle avait promis, elle avait juré sur le cadavre. Elle ne pouvait oublier, elle ne pouvait attendre. Que ferait-elle? Elle ne dormait plus la nuit, elle n'avait plus ni repos ni apaisement, elle cherchait, obstinée. La chienne à ses pieds sommeillait et parfois, levant la tête, hurlait au loin. Depuis que son maître n'était plus là, elle hurlait souvent ainsi, comme si elle l'eût appelé, comme si son âme de bête, inconsolable, eût aussi gardé le souvenir que rien n'efface. Or, une nuit, comme Sémillante se remettait à gémir, la mère, tout à coup, eut une idée de sauvage, vindicative et féroce. Elle la médita jusqu'au matin, puis, levée dès les approches du jour, elle se rendit à l'église. Elle pria, prosterné sur le pavé, abattu devant Dieu, le suppliant de l'aider, de la soutenir, de donner à son pauvre corps usé la force qu'il lui fallait pour venger le fils. Puis, elle rentra. Elle avait dans sa cour un ancien baril défoncé qui recueillait l'eau des gouttières. Elle le renversa, le vida, l'assujettit contre le sol avec des pieux et des pierres, puis elle enchaîna ses miantes à cette niche. Et elle rentra. Elle marchait maintenant, sans repos, dans sa chambre, l'œil fixé toujours sur la côte de Sardaigne. Il était là-bas, l'assassin. La chienne, tout le jour et toute la nuit, hurla. La vieille, au matin, lui porta de l'eau dans une jatte, mais rien de plus. Pas de soupe, pas de pain. La journée encore s'écoula. Sémillante, exténuée, dormait. Le lendemain, elle avait les yeux luisants, le poil hérissé, et elle tirait éperdument sur sa chaîne. La vieille ne lui donna encore rien à manger. La bête, devenue furieuse, aboyait d'une voix rauque. La nuit encore se passa. Alors, au jour levé, la mère Saverini alla chez le voisin prier qu'on lui donnât deux bottes de paille. Elle prit de vieilles hardes qu'avait portées autrefois son mari et les bourra de fourrage pour simuler un corps humain. Ayant piqué un bâton dans le sol, devant la niche de sémillante, elle noua dessus ce mannequin qui semblait ainsi se tenir debout. Puis, elle figura la tête au moyen d'un paquet de vieux linge. La chienne, surprise, regardait cet homme de paille et se taisait, bien que dévorée de faim. Alors la vieille alla acheter chez le charcutier un long morceau de boudin noir. Entrée chez elle, elle alluma un feu de bois dans sa cour, auprès de la niche, et fit griller son boudin. Sémillante, affolée, bondissait, écumait, les yeux fixés sur le grill, dont le fumet lui entrait au ventre. Puis, la mère fit de cette bouillie fumante une cravate à l'homme de paille. Elle la lui ficela longtemps autour du cou, comme pour la lui entrer dedans. Quand ce fut fini, elle déchaîna la chienne. D'un saut formidable, la bête atteignit la gorge du mannequin et, les pattes sur les épaules, se mit à la déchirer. Elle retombait un morceau de sa proie à la gueule, puis s'élançait de nouveau, enfonçait ses crocs dans les cordes, arrachait quelques parcelles de nourriture, retombait encore et rebondissait, acharnée. Elle enlevait le visage par grands coups de dents, mettait en lambeaux le col entier. La vieille, immobile et muette, regardait, l'œil allumé. Puis elle renchaîna sa bête, la fit encore jeûner deux jours, et recommença cet étrange exercice. Pendant 3 mois, elle l'habitua à cette sorte de lutte, à ce repas conquis à coups de croc. Elle ne l'enchaînait plus maintenant, mais elle l'a lancé d'un geste sur le mannequin. Elle lui avait appris à le déchirer, à le dévorer, sans même qu'aucune nourriture fût cachée en sa gorge. Elle lui donnait ensuite, comme récompense, le boudin grillé pour elle. Dès qu'elle apercevait l'homme, Sémillante frémissait, puis tournait les yeux vers sa maîtresse qui lui criait « Va !» d'une voix sifflante, en levant le doigt. Quand elle jugea le temps venu, la mère Saverini alla se confesser et communia un dimanche matin avec une ferveur extatique. Puis, ayant revêtu des habits de mâle, semblables à un vieux pauvre déguenillé, elle fit marcher avec un pêcheur sarde qui la conduisit, accompagnée de sa chienne, de l'autre côté du détroit. Elle avait dans un sac de toile un grand morceau de boudin. Sémillante jeûnait depuis 2 jours. La vieille femme à tout moment lui faisait sentir la nourriture odorante et l'excitait. Ils entrèrent dans Longozardo. La Corse allait en boitillant. Elle se présenta chez un boulanger et demanda la demeure de Nicolas Ravolati. Il avait repris son ancien métier, celui de menuisier. Il travaillait seul au fond de sa boutique. La vieille poussa la porte et l'appela.
« Hé, Nicolas !»
Il se tourna. Alors, lâchant sa chienne, elle cria.
Vas-y, vas-y, dévore, dévore !»
L'animal, affolé, s'élança, saisit la gorge. L'homme étendit les bras, l'étreignit, roula par terre. Pendant quelques secondes, il se tordit, battant le sol de ses pieds. Puis, il demeura immobile, pendant que sémillante lui fouillait le cou, qu'elle arrachait par lambeaux. Deux voisins, assis sur leur porte, se rappelèrent parfaitement avoir vu sortir un vieux pauvre, avec un chien noir et flanqué qui mangeait, tout en marchant, quelque chose de brun que lui donnait son maître. La vieille, le soir, était rentrée chez elle. Elle dormit bien cette nuit-là.